Vous écoutez, on lit pour vous.
Le mirage du pétrole. Un texte de François Brousseau, publié le 12 janvier 2026 dans Le Devoir. L'intervention américaine au Venezuela et la prétendue mainmise de Washington sur le pouvoir à Caracas, alors même que le chavisme sans Nicolas Maduro reste en place, est fondée sur des illusions, des mirages et des fantasmes en bonne partie liés à la fascination enivrante pour l'or noir. Le pétrole dans cette affaire est la drogue qui alimente les illusions de grandeur des États-Unis à l'heure de leur déclin géopolitique et économique. Le mirage est triple. D'abord, on croit faussement, en tout cas, Trump le naïf croit faussement, à l'existence de fabuleuses réserves de pétrole facilement accessibles au Venezuela. C'est le fameux chiffre de 300 milliards de barils de réserves prouvées, selon l'expression utilisée, qui dépasserait de 50 milliards celle de l'Arabie saoudite, pour en faire les supposées plus grandes réserves du monde. C'est au mieux une extrapolation hypothétique, au pire, un mensonge. Entre 2010 et 2013, alors qu'Hugo Chavez était encore vivant et en menait large au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, les statistiques officielles de l'organisation ont soudain vu les évaluations pour le Venezuela tripler, passant en gros de 100 à 300 milliards de barils sur un claquement de doigts. Cette évaluation ne résultait pas de grandes découvertes géologiques ni de percées technologiques qui aurait permis de nouvelles exploitations. On avait simplement changé l'évaluation officielle de certains gisements connus dans le bassin de l'Orénoque pour les élever au niveau dit exploitable. Opération politique et opportuniste, alors même que, dans les faits, l'industrie nationale pétrolière s'enlisait, que les équipements se dégradaient gravement et que la production annuelle s'effondrait. Production quotidienne du Venezuela en 1997, 3,5 millions de barils. En 2020, 500 000 barils. Pour comparaison, l'Arabie saoudite produit environ 10 millions de barils. Donald Trump a convoqué le 9 janvier les dirigeants de compagnies pétrolières pour les inciter à investir au Venezuela, leur disant en substance, à la fois impérialiste et mafieux, « J'ai défoncé la porte. Leur pétrole est à nous. Servez-vous. » Mais attention, a ajouté le boss, « Vous traitez directement avec nous. Nous ne voulons pas que vous traitiez avec le Venezuela. » Selon les comptes rendus de cette réunion, le sentiment général était plutôt au scepticisme, et ce ne sera pas la ruée. Les spécialistes savent que ce pétrole lourd et visqueux, véritable mélasse, est difficile à traiter, et que les infrastructures là-bas sont désuètes, voire ruinés. Ils ont aussi lu l'étude du cabinet Rystad Energy évaluant les réserves exploitables du pays à 30 milliards de barils, 10 fois moins que le chiffre officiel, et les investissements requis à plus de 100 milliards de dollars. Deuxième mirage, on veut faire croire que conditions politiques, internes au Venezuela, commerciales, marché mondial, et géopolitiques sont bonnes, alors qu'elles ne le sont pas. L'agression du 3 janvier était aussi tactiquement réussie qu'elle est stratégiquement indigente. Trump croit qu'une décapitation et un simple coup de pied dans la fourmilière peuvent tout changer. De façon caractéristique, sans avoir la moindre idée de ce qui va suivre, il dit « On va voir ce qui va se passer » et jette des promesses sans rapport avec la réalité, à l'horizon de quelques semaines ou de quelques mois. Le Venezuela est un pays politiquement, psychologiquement et socialement brisé. Son économie, ses infrastructures, la démocratie et l'état de droit sont en ruine. Plus du quart de sa population a fui à l'étranger, sans la guerre. Pensez que l'électrochoc de la capture et de l'exfiltration du président d'un État souverain, qui était aussi, c'est vrai, un chef mafieux haï par la population, puisse, comme par miracle, remettre le Venezuela sur les rails, est une illusion. Trump, en bon mafieux lui-même, croit qu'il peut conclure une entente de capot à capot avec celle qui a remplacé Maduro avec le gros bout du bâton pour lui. Mais l'opposition démocratique, qui a gagné les élections de 2024 et que la Maison-Blanche rejette aujourd'hui comme un rebut, se sent trahie. La clique au pouvoir est toujours là. La population ne voit rien de bon pour elle dans ses tractations entre bandits par-dessus sa tête. Le potentiel de violence entre l'État et la population ou entre factions au pouvoir, Delcy Rodriguez a-t-elle trahi Maduro, est élevé. Une abdication de souveraineté en échange d'un boom économique? Ce n'est même pas dans les cartes. Le marché mondial du pétrole n'aurait rien à faire en 2026, 2027 ou 2028 d'un hypothétique sursaut de production qui viendrait du Venezuela. Au-delà des considérations morales sur la brutalité impérialiste de l'épisode, il n'y a pas là-dedans le moindre plan de relance, politique ou économique, pour ce malheureux pays. Enfin, dernière illusion et non la moindre, on parie sur le pétrole, alors que le pétrole ne représente pas l'avenir. Il est vrai que le pic pétrolier, suivi d'un déclin précipité, annoncé depuis 40 ans, tarde toujours à se concrétiser. Et que la demande à court et moyen terme demeure élevée, avec un marché bien approvisionné. Miser sur le pétrole, à l'heure du nécessaire changement énergétique, peut paraître absurde, même s'il y a un débat légitime entre la nécessité immédiate, réchauffement climatique, les moyens de la transition et les objectifs à long terme. Mais ce n'est pas la mélasse pétrolière de l'Orénoque, sous tutelle américaine, qui va permettre aux Vénézuéliens de se tirer du fond du baril. C'était « Le mirage du pétrole », un texte de François Brousseau, publié le 12 janvier 2026 dans Le Devoir.
Les États-Unis, toujours plus violents. Un texte de Loïc Tassé, publié le 12 janvier 2026 dans le Journal de Québec. Du terrorisme intérieur, s'est exclamée Christine Noem, la secrétaire américaine à la sécurité intérieure, en parlant du meurtre de René Nicole Good. Pourtant, les vidéos montrent qu'au pire, Madame Good a tenté de fuir. Au mieux, elle manœuvrait pour se ranger. Ou alors elle a paniqué. Mais elle n'a jamais mis en danger la vie d'un des miliciens de la garde anti-immigration de Donald Trump. En revanche, le milicien l'a tué à bout portant. Accusée de terrorisme, une pauvre victime qui rentrait chez elle après avoir déposé à l'école son fils de 6 ans constitue un symptôme saisissant de la montée de la violence dans la société américaine. Violence interne. Pourtant, la société américaine est déjà une société violente. Les États-Unis se classent au premier rang mondial pour les homicides parmi les pays développés. Le problème de la faim, l'inaccessibilité des services de santé ou le fondamentalisme idéologique et religieux constituent aussi des formes de violence contre les citoyens américains. Même chose pour la faible redistribution de la richesse. Au fond, les propos souvent extrêmement violents de Trump et son équipe reflètent et encouragent cette violence multiforme. Violence internationale. Une violence qui se manifeste également à l'international. Bien entendu, les relations internationales ont toujours été sous-tendues par des rapports de force violents par leur nature même. Normalement, cette violence est encadrée par des coutumes et des organisations de toutes sortes. Mais l'ordre international actuel n'arrange plus les États-Unis. Ces derniers ont perdu leur prééminence politique, économique et scientifique mondiale. C'est d'ailleurs en raison de cette faiblesse que Trump vient de décider de quitter 66 organisations internationales. Faute de les contrôler, les États-Unis les désertent. Les États-Unis ne dominent plus que par leur force militaire. Une force qui fait de moins en moins le poids face à d'autres puissances comme la Chine. Les États-Unis en sont donc réduits à utiliser la violence militaire pour maintenir leur avantage dans le monde. C'est un mauvais choix. Le gouvernement américain aurait pu décider de renforcer ses alliances avec les autres démocraties. Cependant, par mépris, par arrogance ou même par racisme, le gouvernement de Trump a choisi de faire cavalier seul. Trump veut donc contrôler le Venezuela par la force, mais aussi le Panama, le Canada, la Colombie, le Groenland, etc. Spirale de coups. La violence ou la menace de violence tente à remplacer la diplomatie américaine. Libérer cette violence engendre une spirale de coups tant à l'interne qu'à l'international. Un coût financier entre autres, puisque les groupes contre lesquels la violence interne se déploie vont s'organiser de mieux en mieux. À l'international, les autres pays vont s'armer encore plus. Or, l'économie des États-Unis ne pourra pas soutenir longtemps de telles dépenses. C'est une des raisons pour lesquelles les pays préfèrent coopérer plutôt que de rivaliser militairement. Mais allez donc expliquer cela à Donald. C'était « Les États-Unis toujours plus violents », un texte de Loïc Tassé, publié le 12 janvier 2026 dans le Journal de Québec.
Ce qui nous unit, ce qui nous sépare. Un texte signé par le comédien Patrice Cocquereau qui a parcouru le Canada l'automne dernier à la rencontre de ses habitants. Dans ce texte, il tire quelques conclusions sur l'identité canadienne. Début du texte. Novembre 2025, je quitte Montréal pour un voyage de près de 5 semaines. Je vais visiter et découvrir le Canada pour m'en faire une idée plus précise. Pour aller à la rencontre de ce qui nous unit ou divise ce pays. Dans la perspective d'un troisième référendum au Québec et avec la montée des mouvements indépendantistes en Alberta et en Saskatchewan, ce voyage promet d'être porteur de sens. Tout doit commencer à St. John's, à Terre-Neuve-Labrador. Mais des vents contraires m'amènent plutôt à Halifax. Cette ville est en forte expansion. L'indicateur premier, à mes yeux, est le nombre de grues qui s'activent. Or, les villes près de l'eau m'ont toutes semblé en croissance. Halifax, Québec, ma ville natale, se métamorphose, Vancouver, Victoria. J'ai arpenté chacune de ces villes. Le temps d'y prendre le pouls. Premier constat, Halifax est une ville belle, colorée et inspirante. Les gens y sont courtois et les automobilistes civilisés. C'est une ville qui concilie patrimoine et modernité. Il est facile d'aborder les gens, mais tout semble plutôt en surface. Je profite de mon séjour pour faire un saut du côté de Peckey's Cove. Magnifique! je croise quelques Acadiens, je sens la fierté qui les anime. Je fais ensuite un saut en France, à Saint-Pierre et Miquelon, un reliquat de ce qui fut la Nouvelle-France. Enclavée dans les eaux canadiennes, Saint-Pierre est une petite ville aux maisons colorées. Ses habitants, très accueillants, jouent au hockey, mais font commerce en euros. Des Français aux racines diverses, Acadiens et Irlandais s'y sont installés au cours de l'histoire. Je m'envole ensuite vers Winnipeg, où j'arrive en pleine finale de la Coupe Grey. Plusieurs Québécois s'y trouvent pour l'occasion. Je réalise que le football, autant que le hockey, est fédérateur d'un océan à l'autre. Si Saint-Boniface est plutôt coquette, Winnipeg, son ancien voisin qui l'a avalé, ne brille pas par son architecture, mis à part quelques beaux bâtiments. Le soir, le centre-ville est désert. Je constate les ravages de l'itinérance parmi la communauté autochtone. Les gens sont courtois, mais l'ambiance est plutôt morose. Si on trouve un peu de français à Saint-Boniface, le bilinguisme reste de façade. Je loue une voiture pour aller voir mon neveu qui vit à Gimli, sur le bord du lac Winnipeg. La plus grande communauté d'origine islandaise du pays y vit. Cette escapade me fait rencontrer des gens sympathiques, dont ces deux Québécois de passage qui m'abordent, mon neveu et moi, au restaurant. L'un des deux connaît l'un de mes neveux. Ils ont été voisins à Québec. De Winnipeg, je saute dans le train pour la suite du voyage. Service impeccable chez Via. Une employée et moi découvrons que nous avons été voisins à Montréal. Décidément, voyager permet de renouer avec ses voisins. Si le service est bon, le train, lui, est d'une lenteur excessive. Les convois de marchandises ont la priorité sur les humains. Les paysages plats des prairies sont peu peuplés et plutôt mornes. J'en profite pour parler avec de nombreux passagers, charmants pour la grande majorité. À peu près tous unilingues anglophones. Je parle mieux anglais que je croyais. Une chance, car les échanges sont unilingues. Voilà un élément irritant qui me confirme peu à peu que le bilinguisme en ce pays est un vœu pieux. Les conversations sont sur le mode superficiel. Les gens parlent beaucoup, mais de rien de fondamental. Il est souvent question d'économie, un peu de voyage, c'est tout. Je ne sens jamais la moindre curiosité à l'égard du Québec et du fait français. Malaise. C'est un autre monde. Il n'est jamais question de politique dans les conversations. J'aurais été curieux de savoir ce qu'ils pensent de la montée du mouvement indépendantiste en Saskatchewan et en Alberta. Est-ce un terrain miné, tabou? Me voilà à Saskatchewan. 4 jours à arpenter cette ville que j'avoue avoir eu hâte de quitter. Tout comme Winnipeg, l'itinérance est omniprésente. Les Autochtones composent une grande part de cette population. Cette triste réalité touche beaucoup d'autres couches de la population. Montréal a de la concurrence. Ici aussi, les automobilistes font preuve de civisme. Je l'avais constaté dans l'est du pays. J'en ai maintenant la certitude. Le civisme au volant est une affaire pancanadienne. À cet égard, le Québec est bel et bien une société distincte. À part quelques beaux endroits, dont l'impeccable musée d'art contemporain, Saskatoon donne l'impression d'une ville monotone. J'ai pourtant pris le temps de l'explorer. À nouveau, la courtoisie des gens est constante, tout comme l'absence totale du français dans l'espace public. Je rembarque ensuite dans le train jusqu'à Edmonton, où mon conjoint me rejoint pour la suite. C'est une plus grande ville que les précédentes, avec des galeries d'art et le surréaliste West Edmonton Mall. Quelques 800 magasins, piscines à vagues, patinoires, la folie. Pourtant, cette grande ville est moribonde en son centre. Des commerces sont fermés. des gens tentent de se réchauffer dans les haltes restaurants de l'Edmonton City Center. Cette ville qui a poussé vite n'affiche aucun nouveau chantier en hauteur, mais elle possède un excellent système de tramway qui poursuit son expansion. Civisme et courtoisie demeurent de mise. Le français? Très rare, quoiqu'il existe une dynamique communauté francophone. Nous quittons Edmonton pour traverser les Rocheuses qui offrent des paysages fabuleux. Le wagon Dome offre une vue optimale. C'est la portion la plus spectaculaire du voyage. 30 heures plus tard, nous arrivons à Vancouver. J'adore cette grande ville élégante et ouverte sur le monde. Architecture audacieuse, vue sur les montagnes et la mer, réseau de transport à la fine pointe, restaurant de qualité. Il paraît que les francophones et francophiles sont nombreux. On ne le devine pas en conversant avec une charmante dame qui nous fait visiter une ancienne église convertie en musée. Elle a vécu plusieurs années à Montréal. À aucun moment, elle ne nous parle en français. Cette expérience m'amène à penser que le bilinguisme, au fond, est une réalité québécoise et non canadienne. Le mandarin, ici, est omniprésent. Nous tombons même sur une machine distributrice de produits uniquement étiquetés en chinois. Vancouver est magnifique, mais l'envers de la médaille, l'itinérance et le coût exorbitant des loyers, vient ternir le portrait global. Cette ville, tournée vers l'Asie, vit dans une autre perspective que la nôtre. C'est carrément un autre pays. De Vancouver, court séjour à Victoria. Très british, propre, agréable, belle, dynamique. J'adore la ville tant pour l'architecture que pour l'affabilité des gens, le civisme et les restaurants. Et une fois plus, le français est quasi inexistant. Avant de rentrer à Montréal, nous faisons un court séjour à Whistler. Les sommets enneigés sont majestueux, le centre de ski rappelle Tremblant. Ce voyage m'a nourri l'esprit et le cœur. Tant de rencontres, de paysages. Au fil des escales et des conversations, un certain bilan s'impose. Il y a des domaines où le Canada partage les mêmes valeurs que le Québec. Le sport, le hockey surtout, l'importance d'un système politique fondé sur la démocratie, le maintien d'un système de santé et d'un réseau scolaire accessible. Pour ce qui est de la langue et de la culture, en revanche, nous vivons sur deux planètes. Le bilinguisme est une illusion. Malgré de belles intentions, l'espace public ne reflète pas ou peu la réalité francophone. Vous sentez-vous d'abord québécois ou d'abord canadien? J'ai beaucoup sillonné le Québec. Le Canada, je le connaissais en partie. J'adore voyager. Je viens de visiter nos voisins avec lesquels je me suis bien entendu. Mais c'est comme si j'avais visité un autre pays. Dans tous les cas, il m'apparaît essentiel de faire la connaissance de l'autre en allant à sa rencontre. Peut-être afin de faire le pont entre deux solitudes qui portent encore si bien leur nom. Fin de ce texte signé par le comédien Patrice Cocro, titré « Ce qui nous unit, ce qui nous sépare », publié dans la presse du 30 janvier 2026.
La Cour suprême américaine va arbitrer la participation d'athlètes transgenres aux compétitions féminines. Un texte de l'AFP publié le 13 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles. La Cour suprême américaine, majoritairement conservatrice, débat mardi d'une question devenue explosive. Le droit des filles ou femmes transgenres à participer à des compétitions sportives féminines, scolaires et universitaires. Donald Trump a fait des droits des personnes transgenres un des axes de sa campagne de 2024, promettant de mettre fin au délire transgenre. Dès le 20 janvier, jour de son investiture, le président républicain a signé un décret selon lequel son administration ne reconnaîtrait désormais l'existence que de deux sexes, masculin et féminin, définis à la naissance. Il a également signé en février un décret autorisant les agences fédérales à couper les subventions aux écoles qui permettent aux sportifs transgenres de concourir dans des championnats féminins. En cause mardi devant les 9 juges de la Cour suprême, les lois adoptées par les États conservateurs de l'Idaho, Nord-Ouest et de la Virginie-Occidentale, Est, qui, comme plus de la moitié des États américains, interdisent aux femmes transgenres de participer aux compétitions féminines. En Idaho, pionnier de ce type de législation aux États-Unis, une étudiante transgenre de l'Université de l'État de Boise, Lindsay Haycock, a contesté son exclusion d'épreuves sportives. Une cour d'appel fédérale lui a donné raison, considérant que la loi violait une disposition du 14e amendement de la Constitution américaine sur l'égale protection des citoyens. En Virginie-Occidentale, il s'agit d'une mineure transgenre dont une autre cour d'appel fédérale a conclu qu'elle subissait une discrimination fondée sur le sexe, prohibée par la loi américaine. Bon sens. Soutenu par l'administration Trump qui qualifie ces lois de politiques éminemment raisonnables, les deux États affirment vouloir simplement faire respecter l'équité et la sécurité sportive. En moyenne, les hommes sont plus rapides, plus forts, plus grands, plus musclés et ont plus d'explosivité que les femmes, fait valoir dans ses arguments écrits l'Idaho assimilant les femmes transgenres à des hommes et invoquant le bon sens. Les femmes et les filles ont perdu des places dans les équipes de sport, cédé des places sur les podiums de championnats et subi des blessures. En affrontant des femmes transgenres, déplorent également les représentants de la Virginie-Occidentale. Mais les sportifs transgenres concernés exhortent la Cour suprême à déclarer ces lois illégales et discriminatoires. La discrimination gouvernementale contre les personnes transgenres ne fera que s'intensifier si cette Cour statue que les lois discriminant les Américains transgenres sont présumées constitutionnelles, préviennent ainsi les avocats de Lindsay Haycock. La décision des 9 juges est attendue d'ici le terme de la session annuelle de la Cour suprême fin juin. En juin, la Cour a permis au Tennessee Sud d'interdire aux mineurs transgenres l'accès au traitement de transition, considérant que la loi adoptée en la matière par cet État ne présentait pas de caractère discriminatoire. C'était « La Cour suprême américaine va arbitrer la participation d'athlètes transgenres aux compétitions féminines ». Un texte de l'AFP, publié le 13 janvier 2026 sur le site de TVA Nouvelles.